d'être venu dans La France Bouge. Merci également à David Smadja, notre coach du soir. Je remercie également Corinne Reich à la préparation, à la réalisation de l'émission, ainsi que Diana Ngoma et César Dian pour la préparation. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 21h pour La France Bouge. Dans un instant sur Europe 1, c'est le journal de 22h, oui, avec Maël Hassani.
Europe 1,
21h, 22h,
Aurélien Fleurot.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accompagner en ce jeudi soir pour Europe 1 Nuit jusqu'à 22h30. À la une de votre journal, deux options pour faire adopter le budget, 49.3 ou ordonnance. Le gouvernement se rend à l'évidence et acte ce soir l'impossibilité de trouver un accord à l'Assemblée. Mais des annonces seront faites demain par Matignon pour convaincre les oppositions de ne pas voter la censure malgré ce passage en force. 36 milliards d'euros supplémentaires pour la défense d'ici 2030. Emmanuel Macron veut accélérer les efforts de réarmement de la nation face à un monde toujours plus brutal. Le président de la République prononçait ses vœux aux armées ce matin. Retour sur ce discours dans quelques minutes. Dans ce journal également, les témoignages bouleversants d'Iraniens qui ont pu quitter le pays ces derniers jours et qui racontent l'horreur des massacres de manifestants par le régime des Mollahs. Et puis les conseils d'Europe 1 et du magazine Capital pour bien placer votre argent cette année. Le gouvernement le reconnaît à son tour. Certes, après tout le monde, il sera impossible de faire adopter le budget par un vote à l'Assemblée. Matignon explique cette impasse par, je cite, le sabotage continu de la France insoumise et du Rassemblement national. Vous l'avez compris, le passage en force s'impose, mais Sébastien Lecornu fera des propositions demain pour éviter la censure. Alexis de la Fontaine, deux options restent donc à disposition de l'exécutif, 49.3 ou ordonnance. Le choix sera arrêté probablement ce week-end lors d'un conseil des ministres.
Oui, c'est un passage obligé avant de pouvoir déclencher l'article 49.3 ou de promulguer les ordonnances. Cette demande vient confirmer une rumeur persistante. Le Premier ministre souhaite interrompre les débats au Parlement pour faire adopter son budget en force. Le gouvernement doit trancher sur sa stratégie mardi prochain. Et selon les informations d'Europe 1, le 49.3 est la piste privilégiée. C'est moins martial que les ordonnances, justifie un député Renaissance. En revanche, cette hypothèse est rejetée par l'opinion publique. 59% des Français sont contre le 49.3. La question qui se pose maintenant est celle de la censure. Les oppositions vont riposter avec plusieurs motions. Le Rassemblement National, la France Insoumise, le Parti Communiste et les écologistes ont déjà annoncé qu'ils les voteraient. Seuls les Républicains et le Parti Socialiste laissent encore planer le doute. Ils attendent de voir la copie finale adoptée par le gouvernement. Mais si l'un des deux décide d'appuyer sur le bouton, Sébastien Lecornu sera renversé.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Pour le moment, les débats se poursuivent à l'Assemblée. Les députés rejettent aujourd'hui le retour de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Le budget prévoit aussi une enveloppe d'urgence de 300 millions d'euros pour les agriculteurs. Une profession toujours mobilisée, même si les manifestations se font plus rares. À deux jours de la signature du traité du Mercosur, 70 tracteurs se sont retrouvés dans le centre de Lyon aujourd'hui pour une action devant la préfecture du Rhône, Jean-Luc Boujon.
Oui, image insolite avec ces tracteurs circulant sur les quais du Rhône, tout klaxon hurlant, à deux pas de la préfecture où une délégation était reçue tout à l'heure. Mais auparavant, les agriculteurs s'étaient donné rendez-vous dans le quartier de Gerland, devant l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, devant laquelle les paysans ont déversé des troncs d'arbres qu'ils ont été obligés d'arracher. Tout sauf un hasard, selon Grégory Chardon, producteur de fruits dans la Drôme.
Cette agence gère tout ce qui est produits phytosanitaires. Et aujourd'hui, on nous enlève des produits. Et nous, dans nos cultures végétales, on en a besoin pour pouvoir lutter contre les ravageurs qui sont omniprésents. Derrière, on perd beaucoup de récoltes. Je vous donne l'exemple de la cerise, par exemple, où on était une très grosse région productrice de cerises. Et ça fait déjà une dizaine d'années qu'on nous a supprimé des produits très efficaces contre des petites mouches. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est symbolique, mais il y a des arbres qui sont arrachés chaque année parce qu'on ne peut plus produire des cerises.
Autant de produits phytosanitaires autorisés par exemple en Espagne et en Italie. Les agriculteurs dénoncent donc une distorsion de concurrence au sein même de l'UE. Et ce sera encore pire avec les pays du Mercosur qui, eux, utilisent toutes les molécules interdites en Europe pour produire leurs céréales, leurs fruits ou leurs légumes, estiment les agriculteurs rhône-alpins, effrayés par la signature prévue samedi du traité avec les pays sud-américains.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Autre manifestation d'agriculteurs organisée aujourd'hui, un barrage filtrant devant le port de Dunkerque, 200 manifestants devant la préfecture de Dijon. Une opération escargot menée par une centaine de tracteurs en Meurthe-et-Moselle, provoquant plusieurs kilomètres de bouchons. suite du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Procès décisif, vous le savez, pour l'avenir politique de Marine Le Pen. Condamnée en première instance à 4 ans de prison pour détournement de fonds publics et frappée d'inéligibilité pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire. Mais depuis l'ouverture de cette deuxième audience mardi, l'horizon semble quelque peu s'éclaircir pour la chef des députés RN, Maïalène Trémollet.
Concrètement, le parti n'a rien obtenu de définitif cette semaine, mais par rapport à la première instance, le ton a changé, l'atmosphère aussi, comme l'explique l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselu.
En cause d'appel, on vient reconnaître que vous avez fait l'objet d'un mauvais traitement judiciaire. C'est un soulagement. Les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité.
Parmi les signaux considérés positifs par le RN, la demande du parquet général de retirer une partie des contrats d'assistants parlementaires pour lesquels Marine Le Pen avait été condamnée en première instance. Si à ce stade, la cour d'appel réserve sa réponse définitive pour le délibérer, cette demande sonne comme une preuve pour les prévenus qu'ils bénéficieront d'un véritable procès en appel dans lequel ils seront écoutés. Procès d'autant plus crucial qu'il intervient en plein cœur de la campagne des élections municipales. Candidat à sa succession à la mairie de Perpignan, Louis Alliot a ainsi demandé à la cour un renvoi de son cas pour pouvoir se consacrer à sa campagne. Renvoi qui lui a été refusé contre une possibilité d'aménager au moins partiellement son calendrier. De son côté, Marine Le Pen, dont l'audition est attendue mardi, sera demain aux côtés de Franck Alizio pour soutenir sa candidature à Marseille.
Maïalène Trémollet et l'audience reprendra lundi. Le procès en appel doit s'achever mi-février. L'arrêt ne sera pas rendu avant l'été prochain. Meir Habib fait part de sa volonté de faire appel. L'ex-député franco-israélien apparenté LR vient de perdre un procès pour injure publique à caractère antisémite face à l'insoumis David Guiraud. L'élu LFI avait traité son collègue de porc dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en 2024 devant les caméras de télévision. Des faits qui ne constituent pas une infraction selon le tribunal correctionnel de Paris. Vous écoutez Europe 1, il est 22h06, restez avec nous dans un instant. On revient sur les vœux aux armées prononcés tout à l'heure par Emmanuel Macron sur la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. A tout de suite.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci.
Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter.
Ouais, ouais.
Faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à Riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride e-tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, open air link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Europe 1 Nuit. Maëlle Hassani.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h08 et c'est la suite de votre journal. Et c'est l'un des derniers costumes qui reste pleinement à disposition d'Emmanuel Macron, celui de chef des armées. Le président de la République présentait ses vœux aux militaires tout à l'heure sur la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. L'occasion de lancer un énième appel au réarmement du pays dans un monde qualifié de brutal. Un investissement supplémentaire de 36 milliards d'euros d'ici 2030, annoncé dans le cadre de la loi de programmation. Une quarantaine de minutes de discours résumé pour Europe 1 par Stéphane Burgat.
Avec une mise en scène soignée, entourée de 3 avions de chasse, Emmanuel Macron n'a pas beaucoup besoin de s'appuyer sur ses fiches. Le message est assez simple. Nos forces armées doivent absolument poursuivre leur montée en puissance.
L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort.
Le président évoque les contextes russes, iraniens, mais également le Groenland, où des troupes françaises continuent d'être déployées pour participer à un exercice militaire conjoint avec d'autres forces européennes.
Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. La France et les Européens doivent continuer partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là sans escalade, mais intraitable sur le respect de la souveraineté territoriale.
Mais combien d'effectifs tricolores précisément sont déployés au Groenland ? Le président, lors de son discours, comme son entourage hors micro en marge de la cérémonie, sont restés muets à ce sujet. Istres, Stéphane Burgat, Europe.
Et nous reviendrons sur ce discours, ces vœux aux armées prononcés tout à l'heure par Emmanuel Macron, avec l'invité politique d'Europe 1 Nuit à partir de 22h15, l'eurodéputé LR et général de corps d'armée Christophe Gomard. Justement, ces troupes européennes envoyées au Groenland ne changent rien à l'objectif de Donald Trump de s'emparer du territoire. C'est ce qu'indique ce soir la porte-parole de la Maison-Blanche. Des exercices militaires salués malgré tout par la première ministre danoise qui recevra demain la visite d'une délégation du Congrès américain à Copenhague. Et à l'instant, un ministre danois fait part de cette déclaration. Une acquisition du Groenland par les États-Unis et je cite, hors de question. Les États-Unis qui n'ont toujours pas tranché dans le dossier iranien. Si Washington laisse planer la menace d'une intervention pour mettre fin à la répression meurtrière des manifestations contre le régime des Mollahs depuis plusieurs jours, Donald Trump n'est pour l'instant toujours pas passé de la parole aux actes. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Comment expliquer cette indécision du président américain ?
Eh bien, c'est tout simple, il ne veut pas d'un conflit qui s'enliserait pendant des semaines, voire des mois avec l'Iran. Selon ses conseillers, les risques sont importants en cas de bombardement. Le régime des Mollahs a peu de chances de chuter et sa population pourrait se rallier à ses côtés. Washington craint aussi une riposte de grande ampleur de Téhéran sur ses intérêts et ceux d'Israël dans la région. Ce serait le scénario du pire pour Donald Trump qui s'est fait élire en promettant de ne plus engager les États-Unis dans de nouvelles guerres. D'autant plus que l'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman ont averti. Un conflit avec l'Iran pourrait gravement perturber le trafic dans le détroit d'Ormuz, où passe environ un cinquième des livraisons mondiales de pétrole. On comprend donc les hésitations du président américain. Hier, il a assuré qu'il tenait de sources sûres que le régime iranien avait arrêté de tuer des manifestants, sa ligne rouge jusqu'à présent. Et il y a quelques instants, la Maison-Blanche a annoncé que l'Iran avait annulé 800 exécutions. Mais une intervention américaine semble encore et toujours possible. Les États-Unis ont commencé à évacuer leur base d'Al-Udeid au Qatar, base qui se trouve à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes iraniennes.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Vous l'avez dit, Rémi, 800 exécutions de manifestants étaient prévues hier en Iran. Exécutions finalement annulées. Mais ce renoncement intervient après des massacres en série aux quatre coins du pays pour mater la révolte. Antoine Bienvaux, l'ampleur de la répression sanglante semble se préciser grâce à des témoignages d'Iraniens en fuite. Et on parle de dizaines de milliers de morts.
Oui, en dépit de l'émoi et des menaces de la communauté internationale, le régime continue sa répression barbare. Les rares informations qui nous parviennent malgré la coupure d'Internet décrivent d'atroces massacres visant aveuglément la population civile, comme l'explique cet Iranien qui a réussi à fuir vers la Turquie.
Les gars, je viens d'arriver en Turquie. Ils tuent tout le monde. Ils tuent les enfants dans la rue. J'ai vu l'enfer en Iran ces derniers jours.
Des exactions aussi rapporté par Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, qui n'hésite pas à parler de crimes contre l'humanité.
En Iran, il se produit des massacres de masse par le régime, évidemment. Ce matin, j'ai appris qu'une famille avait perdu ses trois enfants abattus par les miliciens travaillant pour le régime.
En réaction, le gouvernement américain a annoncé aujourd'hui des sanctions économiques contre plusieurs responsables sécuritaires iraniens soupçonnés d'orchestrer ces massacres. Plusieurs pays, dont la Turquie et l'Arabie Saoudite, ont en revanche assuré avoir dissuadé Donald Trump de frapper militairement l'Iran, craignant un embrasement de la région.
Antoine Bienvaux, les autorités belges s'inquiètent de l'implication de mineurs dans les dossiers liés à la radicalisation salafiste ou djihadiste. Dans son rapport de l'année 2025, le service de renseignement évoque notamment le cas d'un enfant de 12 ans considéré comme présentant une menace. Un tiers des projets d'attentats en Belgique l'année dernière impliquaient des moins de 18 ans. C'est désormais officiel, le taux du livret A sera légèrement abaissé dès le 1er février, 1,5% contre 1,7% actuellement. Le livret d'épargne populaire restera plus attractif à 2,5%. Et justement, cette question, quel placement pour 2026 ? Aujourd'hui, Capital et Europe 1 vous éclairent sur les produits à éviter et ceux qu'il faut privilégier. Et on s'intéresse ce soir notamment à l'épargne retraite, alors que plus de 7 Français sur 10 sont inquiets pour leur pouvoir d'achat après avoir quitté la vie active. Barthélémy Philippe, quelle stratégie financière faut-il mettre en place pour aborder sa retraite le plus sereinement possible ?
Eh bien d'abord, mieux vaut partir à la retraite propriétaire en ayant remboursé son crédit. Maxime Chipoy est président de Moneyvox.
Quand on entre à la retraite, on perd entre 30 et 50% de ses revenus. Donc si on doit toujours payer un loyer qui représente environ 30% de ses revenus aussi, ça devient compliqué. Donc si déjà on a acheté sa résidence principale, on s'épargne le gros des problèmes.
Côté placement, deux produits sont recommandés selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
L'assurance vie, qui est un couteau suisse, qui permet tout à la fois de financer les projets à moyen terme, la retraite, et puis il y a le PER, le plan d'épargne retraite, qui a été créé à cet effet et qui ouvre droit à une déduction fiscale à l'entrée pour la constitution d'un capital ou d'une rente en vue de la retraite.
Autre possibilité, l'investissement locatif qui permet de compléter sa pension avec un loyer. Enfin, les produits boursiers comme le PEA peuvent être payants dans le cadre d'une exposition à long terme. La probabilité de perdre de l'argent devient nulle au bout de 20 ans, selon les spécialistes, et un investisseur peut espérer 7 à 10% de rendement annuel.
Barthélémy Philippe, et puis La Poste reste incontournable. Le groupe s'est chargé d'acheminer plus de 180 millions de colis en France entre les mois de novembre et décembre 2025 via ses services Colissimo, Chronopost et DPD. Chiffre en hausse de 6% par rapport aux fêtes de fin d'année de 2024. Bilan dévoilé aujourd'hui par l'entreprise. Le pic a été atteint le 1er décembre avec plus de 5 millions de livraisons en une seule journée. La météo, désormais à 22h15 sur Europe 1, avec vous Marlène Duret. Bruine humide sur une grande partie du pays.
Oui, la perturbation qui a donné pas mal de pluie dans le nord-ouest va continuer de s'enfoncer. Alors elle sera temporairement un peu moins active demain. Elle aura tendance à faire du surplace également. En tout cas, on va la retrouver des plaines du sud-ouest à la Champagne et à l'ouest de la Lorraine, en passant par l'Auvergne, le centre-val de Loire, la Bourgogne, l'Île-de-France, avec de la neige dans les Pyrénées à partir de 1300 mètres. Temps gris et humide également dans le sud-est avec nos entrées maritimes d'une part, des retours d'est d'autre part, côté Alpes, et donc ça va donner pas mal de nuages, des pluies qui s'annoncent parfois copieuses, notamment dans le secteur des Cévennes. Le Roussillon restera au sec avant d'être abondamment arrosé dimanche et lundi. Enfin, un ciel plus variable et changeant va s'installer à l'est d'une ligne Maubeuge-Arcachon en passant par la Touraine. Il y aura des éclaircies, il y aura des nuages, quelques averses aussi, notamment près du littoral atlantique, entre le Finistère et la Gironde, plus tôt dans l'après-midi, et on n'exclut pas un coup de tonnerre. Quant aux températures, elles seront généralement comprise demain après-midi entre 9 et 15 degrés, avec 9 à Gap, 10 à Mulhouse, à Grenoble, 11 à Amiens, Paris, La Rochelle, Montauban, 12 à Caen et Nancy, 13 à Carcassonne, 15 à Lyon et Avignon. Et puis ça peut monter jusqu'à 16 ou 17 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse du Sud.
Merci beaucoup Marlène Duret. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on reparle du réarmement de la France, également de l'envoi de troupes françaises au Groenland et de soldats français peut-être en Ukraine dans les prochains mois. Autant de projets évoqués par Emmanuel Macron tout à l'heure lors de son discours et de ses vœux aux armées. On y revient largement dans un instant avec le général de corps d'armée et eurodéputé LR, Christophe Gomard. À tout de suite.
Cette semaine, Europe 1 avec Salin Holidays vous offre un voyage féerique pour deux au Vietnam.
Admirez les paysages du delta du Mékong.
Explorez la cité impériale de Hue.
Et naviguez dans la baie d'Along.
Un périple captivant de 11 jours, alliant histoire, culture et nature.
Pour tenter de gagner cet incroyable voyage, rendez-vous toute cette semaine à 7h20 sur Europe 1.
Rencontrez le monde avec Salin Holidays. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certe énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Europe 1 News, Maëlle Hassani.
Et à 22h18 sur Europe 1, j'accueille l'invité politique d'Europe 1 Nuit, l'eurodéputé LR et général de corps d'armée, Christophe Gomard. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous avez suivi évidemment les vœux aux armées prononcés ce matin par Emmanuel Macron sur la base aérienne d'Istres, avec cette phrase qu'il a déjà prononcée à plusieurs reprises et qu'il a redit ce matin. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Christophe Gomard, est-ce que les choix du président de la République ces dernières années, ces derniers mois, vous paraissent à la hauteur de cette grande déclaration ?
Ma réponse est non. Je suis entièrement d'accord avec son assertion sur le fait de pour être puissant et il faut enfin pour être libre il faut être puissant. Je crains malheureusement que ce n'est pas l'augmentation du budget de la défense que le budget soit suffisant. C'est un budget de réparation, en effet, mais à la fin de la loi de programmation militaire actuelle, on n'aura pas plus de chars Leclerc, on n'aura pas plus de rafales d'avions de chasse et on n'aura pas plus de frégates. Donc oui, c'est insuffisant. Emmanuel Macron, comme souvent, parle beaucoup, mais les faits sont beaucoup plus ténus. Et on recherche réellement ce qui a été fait ou pas fait. C'est ça la difficulté. C'est que malheureusement, on ne sortira pas plus fort. On aura moins de Charles Leclerc en sortie de l'EPM, par exemple.
Alors, pourtant, les chiffres évoqués nous semblent particulièrement énormes. On parle de 413 milliards d'euros pour les armées dans la loi de programmation militaire entre 2024 et 2030. Vous dites qu'il faut faire plus, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut entrer en économie de guerre? Il faut utiliser ce terme?
Non, mais c'est-à-dire qu'il faudrait doubler, voire tripler l'actuel budget de la défense. Quand vous comparez ce que l'on dépense aujourd'hui, la France, environ 50 milliards d'euros. L'Allemagne, elle est déjà à plus de 66 milliards d'euros, voire je crois c'est 80 milliards d'euros. Et en 2029, elle sera à 126 milliards d'euros. En 2029, nous, on sera toujours à 50 milliards d'euros. Or, les besoins sont de plus en plus prégnants et forts. Quand on regarde ce qui se passe en effet en Ukraine, quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, la crise internationale là, quand on regarde ce qui se passe en Iran... Ce qui vient par là, c'est que si on veut être respecté, si on veut être craint, en effet, il faut acheter beaucoup plus de matériel militaire, il faut beaucoup plus d'hommes, il faut beaucoup plus de munitions.
Alors, effectivement, on parle de puissance, on parle d'être craint par les autres pays du monde. Mais Christophe Gomard, vous observez comme nous que sur plusieurs dossiers, qui ne sont pas tous militaires, mais sur plusieurs dossiers, la France est plutôt, le rang de la France est plutôt abaissé. On a vu notamment la voix de la France complètement affaiblie sur la question du Mercosur. On a vu une réaction plus que timide sur la situation en Iran. Et effectivement, les Iraniens n'attendent plus rien de nous parce que tout simplement, on était aux abonnés absents. Des humiliations qu'on a essuyées ces derniers mois avec l'Algérie notamment. Comment être crédible après autant de revers?
Il faut reconstruire. Il faut rembourser une partie de notre dette, c'est-à-dire faire des économies et non pas augmenter les impôts, c'est-à-dire réduire le train de vie de l'État dans un certain nombre de domaines. C'est-à-dire c'est lutter contre la fraude, c'est rationaliser l'organisation de l'État avec ses 900 agences, avec le CESE, avec l'AFD. Il faut cesser vraiment d'augmenter, j'allais dire les fonctionnaires. C'est difficile à dire, mais si on n'a pas ce manque, si on n'a pas ce courage et ce sacrifice. Il est certain qu'on n'arrivera pas réellement à augmenter le budget de nos armées. Pourquoi pas envisager un emprunt national ciblé? On peut également recentrer le plan d'investissement de la France 2030 à la défense. Seulement, il reste 30 milliards d'euros sur ce France 2030, sur les 54. Donc, orientons-les vers l'innovation et le financement des capacités stratégiques françaises. C'est-à-dire, il y a des moyens. Vous savez, au Parlement européen, quand je discute avec mes collègues parlementaires européens, La question est toujours, mais comment la France en est arrivée là? Comment la France a-t-elle pu s'endetter de cette manière-là? 4 000 milliards d'euros ou presque. Alors que les autres, l'Italie, le Portugal, la Grèce, tous ces pays qui ont été très endettés s'en sont sortis grâce à des sacrifices, grâce à un vrai courage des décideurs politiques.
Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la France et que le président Emmanuel Macron se voient peut-être un peu plus grand qu'elle ne l'est réellement sur la scène internationale?
Alors, heureusement, la France a des atouts, bien évidemment. La France dispose de la dissuasion nucléaire, la France dispose d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France dispose de la deuxième zone exclusive économique, la France dispose d'un laser mégajoule à côté de Bordeaux, la France dispose de véritables atouts. Mais malheureusement, nous avons un président de la République qui parle, et nous attendons les faits. Il se satisfait de sa parole, il se noie presque dans sa parole. Ses vœux ce matin devant les armées, c'était un auto-satisfaisite. Quand on regarde de près la réalité, aller faire un tour dans les régiments de l'armée de terre française, malheureusement, vous risquez d'être très déçu sur l'état du parc militaire, sur l'état du parc des chars, sur l'état du parc de nos canons.
Le nouveau grand combat d'Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, et c'est vrai qu'il en parle énormément, il en a reparlé ce matin, c'est le Groenland, c'est la situation au Groenland, qui, on le rappelle, est convoitée par les États-Unis de Donald Trump. Des troupes françaises sont arrivées sur l'île Arctique ce matin, donc vous parliez d'actes, Christophe Gomard, en l'occurrence, il s'agit d'un acte, on va voir ce que vous en pensez, parce que je rappelle également à nos auditeurs que vous êtes général de corps d'armée, donc vous avez aussi une expertise au-delà de la casquette politique. Donc très clairement, on parle de mission de dissuasion, qu'est-ce que ça veut dire pour ces soldats français? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Alors, d'abord, je suis un peu surpris, si vous voulez. D'abord, que les Danois, ne fasse pas plus. C'est-à-dire qu'il existe sur cette île, sur ce Groenland, une base américaine avec environ entre 150 et 200 soldats. Donc, soit les Danois disent à ces Américains, mais écoutez, partez, c'est notre territoire. Sauf qu'ils ont signé en 1951 un traité américano-danois pour justement permettre la présence de ces forces militaires américaines. Donc envoyer 12 soldats français ou peut-être quelques dizaines ne changera pas réellement la donne. Ça montre en effet que ce territoire est un territoire européen, c'est un territoire qui appartient au Danemark. Mais j'allais dire, les mesures sont à prendre par les Danois eux-mêmes. S'ils ne sont pas contents de la présence américaine, eh bien, ils disent aux Américains de partir. S'ils ne sont pas contents de leur relation avec les Américains, eh bien, ils cessent leur contrat d'achat de F-35 ou d'autres matériels militaires américains. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, on a un peu l'impression que, oui, on envoie 12 soldats, c'est très bien, on va faire un exercice, pour combien de temps ? Est-ce que ça va dissuader Donald Trump demain d'acheter le Groenland ? Je ne le pense pas. Ça montre une présence européenne, c'est très bien, c'est un bon début, je l'admets. Mais ça ne changera, de mon point de vue, pas la donne.
Mais ce déploiement quand même de forces européennes sur ce territoire groenlandais, évidemment, il interroge. Et est-ce que ça veut dire qu'on doit se préparer, que la France et les partenaires européens se préparent à un affrontement avec les États-Unis si les Américains décidaient d'activer l'option militaire pour s'emparer du Groenland ?
Alors, je ne le pense sincèrement pas. Comme je le disais tout à l'heure, les Américains sont déjà présents avec une base. Les Américains ont été présents jusqu'à 10 000 soldats, entre 7 à 10 000 soldats pendant la guerre froide. Donc je ne pense pas qu'il y ait un affrontement. Je pense que ça va se passer plus sur le plan financier ou sur le plan d'un référendum et il n'y aura pas d'affrontement militaire. Je n'y crois pas. Ou alors, comme l'a dit la première ministre danoise, ça sera la fin de l'OTAN et il est temps que les Européens réfléchissent à une structure de sécurité, une architecture de sécurité pour en effet défendre l'Europe.
Est-ce que c'est peut-être, disons, un brouillon, un premier jet pour une éventuelle défense européenne ? Est-ce que vous appelez d'ailleurs de vos voeux une sorte de défense européenne ? On sait que c'est un projet cher à Emmanuel Macron, il l'évoque de temps en temps. Comment vous voyez ce projet ? Est-ce que c'est même possible finalement de s'accorder entre plusieurs pays pour mettre en commun des forces militaires ?
Alors oui, c'est possible. Aujourd'hui, la défense de l'Europe est vue à travers l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est une structure qui est pilotée par les Américains. Si demain, les 450 millions d'Européens décidaient de se défendre par eux-mêmes, pourquoi ne montrer pas en puissance l'état-major de l'Union européenne qui existe aujourd'hui, mais qui comporte 100 à 120 officiers ? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas grossir cet état-major avec des moyens de communication et de renseignement qui permettent de planifier et conduire une guerre entre Européens pour défendre l'Europe, au lieu de compter sur ce lien transatlantique dont on voit bien aujourd'hui qu'un Donald Trump cherche à, non pas à le détruire, mais en tous les cas, à le diluer.
Et pourquoi on aurait plus d'intérêts communs avec 26 autres pays, qui ont parfois d'ailleurs des orientations très différentes, pourquoi on aurait plus de points communs avec eux qu'on peut en avoir avec les États-Unis ? Parce que c'est vrai qu'on voit ce revirement.
Parce que ce sont nos territoires, ce sont nos pays. En quoi les Américains ont envie de défendre l'Europe, si ce n'est d'avoir l'Europe comme vassal ou comme inféodé ou comme client. C'est là où je m'étonne un peu parfois de la réaction de certains de mes collègues européens qui cherchent à renforcer ce lien transatlantique parce qu'ils restent persuadés que seuls les États-Unis peuvent les défendre face à une menace essentiellement russe. Moi, je reste persuadé, ancien militaire que je suis, reste persuadé qu'entre Européens, on peut très bien arriver à se défendre par nous-mêmes. D'abord, on en a les moyens, on a des armées qui sont équipées, insuffisamment pour l'armée française, mais tout mis bout à bout, on est capable de le faire, si on le veut. C'est une question de volonté politique, bien sûr.
Alors, vous avez évoqué vous-même, Christophe Gomard, la Russie. C'est vrai qu'il y a quelques jours, cette annonce est un peu passée inaperçue, alors qu'il s'agit évidemment d'une annonce majeure. Emmanuel Macron a envisagé le déploiement de plusieurs milliers de soldats français en Ukraine après un éventuel cessez-le-feu. Cette présence, on le sait, le Kremlin l'a dit à plusieurs reprises, elle est jugée inacceptable par la Russie. Le président de la République est-il, à vos yeux, en train de jouer avec le feu sur ce terrain-là ?
Alors, en fait, on parle d'une chose qui arrivera le jour où il y aura un cessez-le-feu. Pour l'instant, on en est loin. Dans le cadre d'une paix qui est évoquée entre simplement les Américains et les Russes, et face à un pays, la Russie, qui a une volonté beaucoup plus inflexible que celle des Européens. C'est là où nous en sommes. Donc, quand on prépare la suite, c'est très bien. C'est-à-dire, en termes de planification, c'est très très bien. Mais nous en sommes encore très très loin. Aujourd'hui, la Russie n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Et elle continuera tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait. D'après ce que je comprends, ils veulent obtenir physiquement les quatre oblasts qu'ils ont conquis en partie, mais pas totalement. Donc malheureusement, la paix n'est pas encore là, ce que l'on regrette évidemment. Mais comment fait-on arrêter la machine russe? Le seul qui en était capable, de mon point de vue, c'était Trump. Je trouve que les Européens ne discutent pas suffisamment avec les Chinois, qui sont très très liés aux Russes évidemment, que c'est peut-être un des moyens de faire cesser ce conflit qui est très dommageable pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie finalement, et donc pour l'Europe à la fin.
Merci beaucoup Christophe Gomard, je rappelle que vous êtes eurodéputé LR, général de corps d'armée. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 Nuit en ce jeudi soir. Et à 22h30, on retrouve Valérie Darmon pour la libre antenne jusqu'à 1h. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Maëlle, avec plaisir. Je vous retrouve jusqu'à 1h du matin avec un numéro de téléphone, le 01 80 20 39 21. 21. Et nous, on se retrouve à 23h voilà. Pour de nouvelles informations.
À tout à l'heure.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Europe 1. Europe 1.
La radio libre.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez. Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1 en direct comme tous les soirs. Florian et Julia prennent vos appels au standard au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez aussi nous écrire au 7 39 21 par SMS précédé du mot nuit, 75 centimes plus coût du SMS, et vous pouvez nous joindre sur la page Facebook de l'émission et à l'adresse mail libreantenne@europe1.fr. Laurent Pelé réalise votre émission, je suis à votre service. Comme toujours, je commence votre libre antenne par une citation un petit peu longue ce soir, mais elle vaut la peine. Il y a des gens qui souhaitent avoir une piscine chez eux, tandis que ceux qui en ont une l'utilisent à peine. Ceux qui ont perdu un être cher ressentent profondément son absence, alors que d'autres qui ont leurs proches près d'eux se plaignent souvent d'eux. Ceux qui n'ont pas de partenaire en rêve, mais ceux qui en ont un parfois ne l'apprécient pas. Ceux qui souffrent de la faim donneraient n'importe quoi pour un plat de nourriture, tandis que ceux qui en ont en abondance se plaignent parfois du goût. Ceux qui n'ont pas de voiture en rêve, tandis que ceux qui en ont une cherchent toujours quelque chose de mieux. La clé réside dans la gratitude, dans le fait de s'arrêter pour observer ce que nous possédons et de comprendre que quelque part, quelqu'un donnerait tout pour ce que nous avons déjà et que nous n'apprécions pas forcément. Ces mots sont ceux de l'acteur et compositeur japonais Hiroyuki Sanada. La Libre Antenne, c'est tout de suite sur Europe 1.
La Libre Antenne.
22h30, 1h, Valérie Darmon sur Europe 1.
Bonsoir Olympe.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Quel joli prénom.
Merci. Bah, d'abord, merci à vous de me laisser la parole ce soir. J'en suis très, très reconnaissante et très contente.
Avec plaisir. Et justement, alors de quoi voulez-vous nous parler, Olympe?
Alors moi, je viens pour vous parler un petit peu de mon histoire assez particulière. Moi, je suis une ancienne anorexique. Je suis tombée dans l'anorexie à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, l'anorexie, c'est une maladie où on décide d'arrêter de s'alimenter du jour au lendemain. Et c'est souvent d'ailleurs une maladie qui est une conséquence suite à un traumatisme. En tout cas, pour ma part, ça a été suite à un traumatisme. Et donc, moi, j'ai vécu pendant 2 ans, en fait, en faisant des allers-retours à l'hôpital. J'ai été 2 fois en danger vital, pronostic vital engagé. Malheureusement...
Vous pesiez combien à ce moment-là, Olympe ?
Je suis descendue... Alors moi, je suis un petit gabarit, je fais 1m50, donc je ne suis pas très grande, mais je suis descendue quand même à 25 kilos.
Ah oui.
Ce qui est très, très bas. Hein. Je m'habillais avec des habits d'un enfant de l'âge de 7 ans. Oui. Donc c'était assez difficile. Et c'est une maladie, mais même pour toutes les autres maladies, on le sait, en France, il n'y a pas assez de lits. C'est très compliqué d'avoir des places dans des cliniques. Donc, vous habitez
où, Olympe ?
Moi, j'habitais à ce moment-là en Bretagne.
Oui.
Donc, il y avait très peu de place, en fait, pour les patients atteints d'anorexie. Et donc, j'ai été prise en charge assez tard, quand mon pronostic vital était engagé. Donc, ça a été très compliqué, puisque l'anorexie, c'est une maladie où plus le temps passe, plus le trouble s'installe et plus c'est difficile de reprendre du poids, de remanger correctement, de revivre normalement. Et en fait, plein de troubles arrivent à nouveau. Donc, ça a été
énormément d'effets secondaires, surtout. Hein. Je pense aux dents, oui. Aux règles.
Ah oui, oui, on perd, en effet. Moi, j'ai perdu beaucoup mes cheveux, j'ai forcément été déréglée très rapidement. Moi, c'était vraiment de l'anorexie restrictive, donc j'ai juste arrêté de manger, je ne vomissais pas autre. Donc, il y a certaines conséquences que je n'ai pas eues, mais après, ça c'est propre à chacun, mais dans tous les cas, oui, il n'y a pas juste le fait d'arrêter de manger, c'est bien plus compliqué que ça.
Vous avez été nourrie par sonde quand vous étiez à l'hôpital ? Oui.
Oui, quand j'ai été hospitalisée, ma première hospitalisation, donc on m'a posé une sonde nasogastrique. Donc c'est une sonde qu'on met dans le nez, en effet, pour avoir de la nutrition, ce qu'on appelle la nutrition entérale, en fait, ce qui permet de nous renourrir, mais aussi de réparer en fait ce qui ne va pas, même au niveau de nos organes, hein, puisque après c'est vraiment à l'intérieur du corps que ça va plus non plus. Donc oui, moi j'ai eu une sonde pendant 3 mois lors de ma première hospitalisation. Malheureusement, comme je suis rentrée en pronostic vital engagé, j'étais pas dans une clinique spécialisée. J'ai vraiment été prise en charge, en fait, par les urgences. Et donc, ce qui fait qu'on m'a posé la sonde, mais on m'a pas réappris à manger à ce moment-là. En sortant de cette hospitalisation, j'avais repris du poids grâce à la sonde, et je crache pas dessus parce que c'était nécessaire et les médecins ont fait très bien leur travail à ce moment-là. Mais on ne m'a pas réappris à manger. Je veux dire, la maladie était toujours là, le problème était toujours là.
Donc vous avez cessé de vous alimenter comme vous aviez cessé de vous alimenter avant de rentrer aux urgences.
C'est ça. Quand je suis sortie, je ne savais pas mieux manger. Donc, à nouveau, j'ai juste rien mangé. J'ai reperdu le poids que j'avais repris. Ce qui m'a amenée en juin 2024 à être à nouveau en pronostic vital engagé, puisqu'en plus j'étais descendue encore plus bas.
Plus bas que 25 kilos.
Je suis descendue au total jusqu'à 24 kilos. Et donc, là, j'étais vraiment très mal et le corps avait déjà souffert. Donc, ça commençait à être plus compliqué. J'étais devenue très blanche. Je n'arrivais plus à parler. Je n'étais plus scolarisée. Je ne voyais plus mes amis parce qu'on ne peut plus sortir et ça nous isole beaucoup. J'étais vraiment, je servais plus à rien. J'étais très transparent. Je n'avais plus goût à rien.
Mais c'était de toute façon ce qui était inconsciemment souhaité de votre part.
Oui.
De toute façon, Olympe, vous avez parlé du traumatisme à l'origine de l'anorexie. Vous voulez nous en parler ce soir ? Vous voulez le partager ?
Alors, moi, je préfère
le garder. Alors, il n'y a aucun problème, puisque dans la libre antenne et sur Europe 1, on ne dit que ce qu'on souhaite, évidemment. Mais en tout cas, vous avez identifié la source, parce que parfois, c'est très difficile d'identifier la source.
Oui, en effet, vous avez raison. Tout le monde n'est pas déjà conscient qu'il est malade. Le déni existe dans l'anorexie. Moi, j'étais consciente que j'étais malade, mais par contre, je savais pourquoi, je connaissais la cause, mais par contre, j'étais incapable de réagir. Donc, c'est ça qui était très difficile. Et pour moi, l'anorexie, c'est quelque part un suicide lent, parce qu'on sait que ça nous amène facilement vers la mort. Et pour le coup, je sais que ça peut être un petit peu difficile à entendre, mais c'était vraiment mon souhait. Moi, c'était vraiment...
De partir.
Quand j'ai compris que je pouvais en mourir, je voulais aller jusqu'au bout. C'était vraiment mon but. Et j'ai compris que ça pouvait aller assez vite. Donc moi, c'était quelque chose d'assez satisfaisant, malheureusement. Donc, quand j'ai été à nouveau, en fait, en mai 2024, en pronostic vital engagé, là, pour le coup, j'avais mal parce que ça peut paraître bizarre, mais ça fait mal d'attendre la mort parce que j'étais pas assez morte. Enfin, j'étais trop vivante pour être morte, mais trop morte pour être vivante. Donc, du coup, c'était vraiment difficile, quoi, parce que j'étais encore là, il fallait encore se réveiller tous les matins, mais j'en avais ni envie. Et en plus, je ne pouvais vraiment rien faire au quotidien. Donc, c'était vraiment très dur. Donc vraiment, j'avais hâte de mourir et j'étais conditionnée à ça.
Cet état dont vous parlez, Olympe, dont très peu de personnes parlent en fait, sauf en cabinet bien sûr, il a duré combien de temps ?
Ça a été assez long parce que dès que j'ai compris en fait que j'étais vraiment malade, donc je pense ma première hospitalisation vers décembre 2023. Jusqu'à vraiment septembre, octobre 2024, ça a été très compliqué. Et moi, c'était vraiment, je voulais partir, quoi. Donc, j'étais vraiment très mal et j'étais pas très motivée à aller mieux.
Les seules personnes que vous pouviez voir, c'était vos parents?
Oui. Alors, moi, je vivais chez mes parents. Donc, mes parents ont compris la maladie. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance. C'est une maladie qui est difficile à comprendre. On entend beaucoup la phrase de il suffit de manger. Mais ça, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à appliquer. Donc, moi, j'ai eu de la chance parce que mes parents ont compris la maladie. Mais c'est pas pour autant que ça change quelque chose. Donc, c'est vrai que j'avais au moins ce soutien-là, mais c'était vraiment les seules personnes que je pouvais voir parce que, de toute façon, le reste des gens ne comprenaient pas la maladie. Et de toute manière, je ne voulais pas les voir parce que physiquement, déjà, je faisais peur. Et je voulais pas infliger ça aux gens, infliger ça à mes copines de à ce moment-là 16 ans au lycée, on n'a pas forcément on a autre chose à faire, donc je voulais pas impacter sur ces personnes. Donc j'étais vraiment très seule, mais j'avais au moins le soutien de mes parents en effet. Et lorsque en fait de mai 2024 du coup à juillet, j'attendais une place en clinique parce que il y a eu une demande de fait dans une clinique spécialisée cette fois-ci pour pouvoir m'orienter sur la maladie en tant que telle. Sauf que, comme je l'ai dit, donc les places sont très chères, compliquées à avoir. Ouais. Voilà, sont très, très
surtout
chères.
En province, à Paris, à la limite, on peut trouver.
Oui, oui. Oui encore, hein, vraiment partout. Parce que moi, j'ai regardé, hein, même Paris, Lyon, et l'attente est longue. Donc, c'est vraiment très, très, très long. Donc, mon état s'est dégradé. Hein, voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes au foie. Mon cœur, les médecins de ma vie...
Vous pouvez lâcher à tout moment, en fait.
C'est ça, je risquais l'arrêt cardiaque tous les jours. Et c'était affreux. Enfin, moi, j'imagine, par exemple, ma maman, on lui disait vraiment au téléphone, si elle devient bleue, appelez les urgences, parce que là, c'est grave. Mais on ne peut pas dire ça, il me laissait chez moi, c'est pas possible. Donc c'était très compliqué à vivre. Et en fait, moi, en plus, j'étais suivie tous les 15 jours. J'allais 2 jours, en fait, aux urgences, juste pour faire des contrôles, quand même, histoire de vérifier que je ne sois pas en train de mourir. Et en fait, le service fermait durant le mois d'août. Donc, j'étais vraiment toute seule chez moi en août 2024, sans personne. Vraiment, j'étais seule avec mes parents et moi qui ne mangeais pas. Donc, pour mes parents, c'est très compliqué.
Je pense vraiment à vos parents parce que les parents sont complètement démunis.
Face à des
enfants anorexiques, évidemment, parce que c'est souvent multifactoriel et ils ne savent pas comment faire, en fait. Donc, on assiste impuissant à la dégradation de l'état de santé de son enfant.
Oui, bien évidemment. Souvent, on parle de l'anorexie et on dit que nous, on souffre beaucoup et c'est vrai, bien sûr, mais il y a aussi l'entourage autour pour qui c'est pas simple. Tout le monde ne comprend pas, tout le monde aimerait réagir mais ne sait pas comment.
On a du temps, hein, ne vous inquiétez pas, Olympe, on va pouvoir vraiment prendre le temps d'échanger ensemble, parce qu'en plus vous êtes jeune et vous acceptez de livrer votre témoignage, et c'est important pour les parents qui nous écoutent, voire peut-être même les jeunes qui nous écoutent. De quoi vous auriez eu besoin, vous, à ce moment précis de votre maladie, d'entendre, ou de quoi vous auriez eu besoin comme accompagnement ?
Je pense que moi, j'aurais souhaité qu'on me prenne juste en tant que patiente, c'est-à-dire moi, Olympe, la patiente, et pas la maladie, parce qu'en fait, moi, c'est la conclusion que j'en ai faite de cette maladie, c'est qu'aujourd'hui, je pense que pas beaucoup de personnes auraient été sérieusement la guérir, qu'on est un peu perdu, on a du mal. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une conséquence de quelque chose et que tout le monde n'a pas la même cause. Et donc forcément, en fait, on met tout le monde dans le même panier parce que si elle, elle est anorexique et l'autre, elle est anorexique, forcément, il faut qu'elles avancent de la même manière. Or non, tout le monde n'a pas la même anorexie. Et donc du coup, ça fait qu'on prend des décisions parfois pour toutes les patientes alors que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et c'est vrai que c'est très difficile et j'aurais surtout eu besoin, je pense, qu'on dise plus que c'est une maladie mentale, parce que je l'ai bien vu, même pour les personnes qui comprenaient la maladie, c'est très compliqué de dire pourquoi ils ne mangent pas, quoi. Enfin, c'est la vie, normalement. On sait qu'on est obligé de manger. Donc, je vois bien l'incompréhension des gens, en fait, à l'idée de ne pas manger. Et c'est vrai que j'aurais eu besoin de plus de compréhension là-dessus, de plus d'écoute. Et les gens sont assez durs sur ça. Trouvé en tout cas.
Et est-ce que vous avez cessé de manger presque du jour au lendemain ou vous avez commencé à trier la nourriture, à réduire vos portions, des choses comme ça? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est installé?
J'ai commencé à réduire mes portions petit à petit, mais ça allait vraiment très rapidement. Je suis vite arrivée à un fromage blanc 0% par jour, donc vraiment j'avais 50 calories dans la journée à peine. Et c'est tout, vraiment c'est tout. Je n'ai fait que ça, je buvais même pas, j'étais déshydratée. Moi, je sais même pas comment j'ai tenu aussi longtemps chez moi finalement, parce que vraiment j'avais rien. Ça s'est fait petit à petit, mais ça a été très rapide quand même.
Il y avait un dégoût de la nourriture.
Oui, alors au début on dit non mais on n'a pas faim, c'est faux. C'est faux, on a très très faim. Seulement on essaie de persuader notre cerveau de ne pas manger, donc forcément on lui dit qu'on n'a pas faim, mais bien sûr que si, on est humain, au début on a faim. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à force de ne plus manger, on perd absolument l'envie de manger, puisque du coup le cerveau n'a plus l'information, on perd toute la notion du goût, on n'a plus envie de rien, on ne sait plus ce qu'on aimait avant, on ne sait pas si on aime toujours quelque chose. C'est très difficile parce que le cerveau nous piège en fait.
Est-ce que vous vous trouviez trop grosse, par exemple? Est-ce que les réseaux sociaux ont joué dans cette histoire, ou le comparatif avec des copines d'école ou des choses comme ça?
Alors, pour ma part, ça a été vraiment un dégoût de mon propre corps, un sentiment de corps assez sale. Donc, c'est vrai que les réseaux m'ont pas impacté sur le moment. Donc, j'ai vraiment juste plus aimer mon corps et j'ai voulu disparaître.
Disparaître, c'est ça.
C'est ça. Donc, au début, je ne me voyais même pas grosse. Vraiment, je voulais juste partir. Et après, une fois que le trouble s'installe, je me suis en effet vue autrement et j'ai fait de la dysmorphophobie. Mais les réseaux, oui, par contre, jouent beaucoup pour beaucoup de patientes. On l'a vu en février dernier avec le Skinny Talk qui a été mis en avant, où là, on voit en effet des jeunes femmes qui prônent la maigreur et qui rendent ça très joli et comme quelque chose de très cool. Mais c'est vrai que c'est très dangereux, parce que moi, je pense aujourd'hui à nos petites sœurs, à nos petites cousines qui ont 15 ans et qui traînent sur TikTok et qui tombent sur ce genre de vidéos. Ça peut être très grave, parce que ça peut aller très vite, surtout que de base, l'adolescence, on le corps change, donc on remet, on se regarde un peu, on cherche un peu nos défauts. Et donc, de voir comme ça, sans rien demander, des vidéos de jeunes filles qui disent qu'on ne peut plus manger ci, on ne peut plus manger ça parce que c'est mauvais, c'est très très dangereux. Et malheureusement, aujourd'hui, les réseaux jouent un rôle très important dans la maladie, parce qu'on laisse encore ce genre de vidéos passer. Et je trouve ça très grave. Et même au-delà, je trouve, de l'anorexie et du skinny talk, je trouve qu'en 2026, aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien manger. En fait, tout est grave. C'est jamais bien de manger, finalement.
Oui. Et puis, il faut dire quand même que l'anorexie a des conséquences graves, même au-delà, c'est-à-dire sur la fertilité. Par exemple, c'est difficile de tomber enceinte ensuite. Cycles hormonaux sont complètement déstabilisés. Il y a vraiment, vraiment de gros impacts. Après, c'est une maladie. Donc, on ne choisit pas de tomber dans l'anorexie. Hein, c'est une maladie, c'est important de le dire aussi.
Bien sûr, on ne choisit pas à choisir. Moi, j'aurais préféré continuer de manger comme toujours et puis à pas avoir ce souci-là. Mais c'est vrai que par contre, c'est une maladie qui va très vite. Et plus elle s'installe et plus on la laisse, plus c'est difficile de sortir. Et c'est ça qui est très dangereux.
Oui. Est-ce que vous avez rencontré des garçons ensuite dans l'endroit où vous avez été hospitalisée qui traitaient essentiellement de l'anorexie? Parce qu'on parle toujours de l'anorexie chez les filles.
Oui.
Mais vous avez rencontré des garçons?
Dans la clinique dans laquelle j'ai été, il n'y en avait pas. Mais par contre, j'en ai croisé quand même quelques-uns, quand je parlais de la maladie ou autre, ou quand j'ai fait des passages dans certains hôpitaux. Donc, il y a, en effet, il y a des garçons anorexiques. Alors, on parle beaucoup, en effet, des femmes parce que il y en a un peu plus. Mais, en effet, il faut penser aussi aux garçons pour qui c'est pas le plus simple parce que, justement, on en parle moins.
Exactement.
Donc, c'est encore, je pense, plus difficile
À diagnostiquer aussi, oui.
Mais bien sûr, ça touche autant les hommes que les femmes et il faut pas prendre ça à la légère.
Donc, revenons à ce fameux mois d'août. Les urgences sont fermées. Vous êtes en danger de mort. Vous êtes à la maison, et là, il se passe quoi pour vous?
Et ben en fait, il se passe que donc je suis vraiment au bout de ma vie, hein, pour être franche. Et donc, moi, je suis prête à mon enterrement. J'avais préparé mon enterrement, je suis prête à ma mort. Parce que les médecins, c'est ce qu'ils ont dit à mes parents. Hein, Olympe, si elle ne mange pas, elle va mourir. Donc, moi, j'ai prévu mon enterrement, parce que je sais que je vais mourir. Donc, j'avais fait un carnet, j'avais tout préparé. Ça peut paraître difficile, mais je voulais vraiment le faire. Donc j'étais prête et j'attendais juste de ne plus me réveiller, hein, clairement. Et en fait, un soir, mes parents ont décidé, parce que du coup, forcément, mes parents étaient très impactés et c'était très dur, la vie était devenue très triste à la maison. Et un soir, mes parents ont décidé de sortir, en fait, pour s'aérer l'esprit. Et donc, ils ont décidé d'aller voir le spectacle d'un humoriste, en fait, qui passait à côté de chez moi. Et il faut savoir que moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses un petit peu négative là, mais j'ai toujours été une petite fille très pétillante. J'aimais beaucoup, j'adore la mode. Depuis que je suis petite, j'adore les paillettes. J'ai vraiment mon univers à moi. J'adore faire rire et mon rêve, c'était de faire de la scène. Donc, mes parents, en fait, quand ils sont rentrés de cette fameuse soirée, ils étaient très contents, ils avaient bien rigolé et ils m'ont dit « Waouh, vraiment, c'était cool, on a bien rigolé, ça faisait longtemps. » Et toi qui aimes bien l'humour, qui aimes bien regarder certains spectacles, les humoristes, etc., tu devrais te renseigner parce que cet humoriste-là, qui s'appelle donc Arnaud Demanche, il était vraiment drôle et tu devrais te renseigner. Et du coup, moi, j'étais très heureuse parce qu'en fait, j'étais très contente d'avoir vu mes parents rigoler le temps d'une soirée, ça faisait très longtemps. Donc, j'étais très reconnaissante pour ça. Et donc, je suis un petit peu allée voir qui était donc ce fameux Arnaud Demanche. Et en fait, en tapant son nom, j'ai vu qu'il venait de donner une interview en expliquant que lui aussi avait été anorexique, en fait. Donc, ça m'a parlé.
Oui.
Donc, je l'ai regardé, je l'ai écouté et j'ai trouvé ça assez inspirant parce qu'il avait le parcours que j'aurais rêvé. C'est-à-dire, il faisait le métier de mes rêves, il avait eu la même maladie que moi.
Il en parlait dans son spectacle ou pas?
Non, il n'en parlait pas. Il a vraiment donné juste une interview. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très touchant, très inspirant. Et je me suis beaucoup reconnue en lui. Et en fait, je n'ai pas trop réfléchi. Je ne faisais jamais ça. Ce n'était pas mon habitude. Mais j'ai vraiment dit, je vais lui envoyer un message. Je vais le remercier d'avoir fait rire mes parents. Parce que je suis très contente de ça. Et en plus, il a un peu la vie dont j'aurais rêvé. Donc, je lui ai écrit un message. Et je lui ai dit, merci d'avoir fait rire mes parents. Ils ont beaucoup aimé votre spectacle. Moi, je suis atteinte d'anorexie. Je vais mourir. C'est un peu horrible avec le recul. Parce que, c'est un peu dur d'envoyer ça à quelqu'un. Mais je lui ai dit, je vais mourir. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu voir cette interview. Parce que moi, j'aurais aimé avoir cette vie-là aussi. Et je ne l'aurais pas, puisque là, c'est fini pour moi. Mais par contre, j'ai quand même, lors de mes hospitalisations, fait des vidéos sur Instagram, pour faire rire, parce que j'aimais faire ça. C'était mon moyen, moi, de montrer un peu aussi à mon entourage et à mes amis que je ne voyais plus, que oui, ça n'allait pas, mais par contre, dès que j'avais un petit peu d'énergie, j'en profitais pour faire des petits sketchs. Donc voilà, j'ai envoyé ce message, comme ça.
Donc, à l'hôpital, vous faisiez des sketchs?
Oui, à l'hôpital, je faisais des petites vidéos de temps en temps, comme ça, en fait, sur les réseaux. Mais vraiment.
Donc, il y avait une part de vous, Olympe, il y avait une part de vous qui était vraiment vivante, qui s'accrochait quand même à la vie, finalement.
Oui, mais moi, j'ai toujours été, souvent, je dis un petit peu, en rigolant, je suis un peu incroyable, mais c'est vrai que j'étais très fatiguée, hein. Physiquement, c'est très dur de tenir debout. Mais par contre, dès que les 5 minutes de ma journée où j'avais la pêche, je voulais faire rire les autres. Voilà, c'était mon moyen de montrer que oui, ça va pas, mais vous inquiétez pas, au fond, je suis encore là quand même. Et donc, ça me faisait beaucoup de bien, mais je cherchais vraiment pas à avoir des abonnés autres, je voulais faire ça pour rigoler, c'est tout. Et donc, je lui ai dit ça, et en fait, j'ai été assez surprise parce que je pensais vraiment pas qu'il allait me répondre. Et il m'a répondu. Il m'a dit merci pour ton message, voilà. Il a un peu discuté avec moi de la maladie, où j'en étais dans la maladie, pourquoi je refusais de manger alors que je savais que j'allais mourir. Et donc voilà. Et quelques jours plus tard, il est retombé en fait sur mon compte, donc il m'a renvoyé un message pour prendre à nouveau de mes nouvelles. Et il avait vu un petit peu les vidéos que je faisais sur les réseaux. Et il m'a dit « Oh, c'est marrant parce que tes vidéos, elles sont quand même rigolotes hein, pour une personne qui va mal. » C'est assez bluffant de voir quand même...
C'est très paradoxal parce qu'on sent à ce moment-là de votre vie l'énergie de mort
oui.
et en même temps l'énergie du vivant.
C'est ça. Vraiment, il y a deux énergies différentes qui sont totalement opposées. Et il me propose quelque chose de fou parce qu'il me dit « Écoute, j'ai compris que ton rêve, c'était de faire la scène. J'ai compris aussi que là, tu avais peu de chances de t'en sortir. Mais on ne sait jamais. Ce que je fais, c'est que moi, je passe pas loin de chez toi au mois de janvier, donc en janvier 2025. Si tu reprends 3 kilos, je t'invite à faire ma première partie. Alors moi, j'étais un petit peu choquée. Je me dis, on ne se connaît pas. Il me dit ça comme ça. Il est courageux. Mm-hmm. En fait, je ne réfléchis pas. Je lui dis oui, mais je n'y crois pas une seconde parce que déjà, je me dis, moi, je ne vais pas tenir. Et en plus de ça, il me dit ça parce que voilà, il voit une jeune fille qui lui dit qu'elle est en train de mourir. Il veut être sympa. Il lui balance ça, mais il ne va jamais le faire. Donc, je dis oui quand même, mais je n'y crois pas du tout. Et ce qui se passe, c'est que moi, par miracle, une place se libère en septembre 2024 pour entrer dans une clinique spécialisée. Donc, je comprends que je vais être hospitalisée. Et à ce moment-là, quand on est hospitalisé dans une clinique, c'est assez strict, hein, on n'a pas le droit à notre téléphone. Donc, je ne vais plus rien avoir, je vais plus avoir le droit à aller au
téléphone. Plus en contact avec l'extérieur, oui, c'est ça.
Oui, je vais vraiment être enfermée, j'ai vraiment été enfermée dans une chambre avec juste 4 murs et des plateaux qui venaient, c'est tout. C'était une période très difficile de ma vie. Et donc je suis un peu inquiète et je lui explique en fait à ce fameux Arnaud, je lui dis voilà moi je rentre en clinique là, c'était pas prévu parce que je pensais que j'allais mourir avant et en plus ils veulent me soigner mais moi j'ai pas envie qu'on me soigne donc ça va être un petit peu compliqué, je vais pas avoir de téléphone donc pour la première partie je vais voir si j'arrive à reprendre du poids. Et en fait, je suis enfermée en septembre 2024 dans cette clinique, donc je n'ai plus de contact avec personne. Voilà, il ne se passe plus rien.
Vous pouvez nous expliquer la démarche dans ces cas-là des praticiens de santé lorsqu'ils vous coupent du monde comme ça, vous isolent. Oui.
C'est assez courant, ça se fait beaucoup. Oui. Il y a ce qu'on appelle les 15 jours d'isolation, en effet. On nous coupe de notre téléphone et de notre famille pendant 15 jours normalement parce que eux pensent que c'est important de se reconcentrer sur nous-mêmes et de ne plus penser à ce qui se passe autour. Ce qui peut en soi être en effet quelque chose de logique et d'utile à la maladie, et je peux le concevoir, mais comme je dis, tout le monde n'est pas pareil, et je pense que c'est pas forcément une bonne technique pour tout le monde. Donc moi, quand on m'a dit tu vas être privé de téléphone et privé de contact avec vraiment toute ta famille pendant 15 jours, je savais que c'était le protocole, je l'ai accepté, et je fais comme tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, moi, au bout de 15 jours, j'ai demandé à récupérer mon téléphone, forcément, comme toutes les autres patientes. Et moi, je n'ai pas eu le droit, parce que comme je l'ai dit auparavant, j'étais un petit peu médiatisée, j'avais quelques abonnés sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ça n'est pas plus à l'équipe médicale, parce que forcément, avoir la parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux,
c'est pouvoir dénoncer. Ils ne pouvaient pas contrôler ce que vous alliez dire, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ah oui. Aujourd'hui, c'est pouvoir dénoncer. On le sait très bien que dans ces cliniques, tout ce qui se passe, ce n'est pas normal. Il y a certaines choses qui ne sont pas forcément... très bien, et donc ils avaient forcément une patiente dans cette clinique qui avait le pouvoir parce que forcément je pouvais parler. Alors c'était pas mon but hein, parce que vous doutez bien que quand je fais 24 kilos que je suis en train de mourir,
l'objectif. Hein, oui, bien sûr.
Mais moi par contre j'ai bien compris que l'équipe médicale avait plus peur que je fasse une vidéo Instagram ou TikTok que je meure finalement. Donc les priorités n'étaient pas forcément là où il fallait être à ce moment-là. Mm-hmm. Donc c'était très compliqué. J'ai bien compris que je dérangeais le fait d'être médiatisée. Donc moi j'ai été interdite de téléphone et de visite pendant beaucoup plus longtemps, ce qui n'est pas légal, hein, mais ils l'ont quand même fait. Et comme j'étais malade, j'avais pas trop mon mot à dire parce que l'anorexie, c'est aussi une maladie où, comme on devient un petit peu plus des enfants, ils nous infantilisent beaucoup aussi. Mmh. Et ils utilisaient beaucoup une phrase que j'ai énormément entendue, c'est « Chut, tais-toi, tu es malade ». Alors oui, c'est vrai, je suis malade, mais par contre, je suis pas bête non plus. Et j'ai compris que tout n'était pas normal.
Oui. Donc, ce qui est même incroyable, alors qu'on encourage la libération de la parole, là, on vous dit « Chut, tais-toi ». Alors que c'est peut-être moment où vous avez envie de crier, d'hurler, de dire...
On m'a demandé de me taire et c'est très grave. Et là où je disais tout à l'heure, en effet, qu'ils traitent les patientes comme tout le monde, c'est que moi, je me souviens très bien, je suis arrivée dans cette clinique et on m'a dit « Bon, je vais vous mettre sous antidépresseur Et j'ai répondu à la médecin, mais pourquoi? Parce que toutes les équipes qui se sont occupées avant, enfin auparavant de moi, m'ont dit que oui, j'étais très malade, mais par contre, je n'avais pas un état de personne dépressive. Je n'étais pas dépressive, en fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi il me faut un antidépresseur. Et la médecin m'a vraiment répondu mot pour mot, écoutez, c'est le protocole ici. Si vous voulez rentrer, il faut être sous antidépresseur. Je dis, mais c'est pas normal, je suis pas dépressive, on peut pas me mettre sous antidépresseur. Elle m'a dit, c'est comme ça, sinon vous partez. Donc, moi, je trouve ça assez dangereux.
Donc, vous les avez pris?
Ah non, moi, je les ai pas pris. Mais de toute façon, moi, j'ai un peu de chance, malgré tout, c'est que du coup, comme j'étais médiatisée, elle avait peur, la médecin. Donc, il y a certaines choses où j'ai réussi à un peu passer au travers. Donc, pour le coup, moi, mais heureusement, je n'ai pas pris des antidépresseurs, parce que moi, j'ai vu certaines personnes qui en avaient, ça fait peur, ouais. C'est encore plus difficile après.
Ouais, ça fragilise encore plus, ouais.
En termes de
réaction. Olympe, restez bien avec nous sur l'antenne d'Europe 1 pour poursuivre votre récit, juste après le flash info, parce que Malassani vient de s'installer, ça va être l'heure des infos. Ne